Rabotai, aujourd'hui, on va commencer maintenant, Bezrat Hashem, nouveau cycle du Tania. C'est-à-dire que même ceux qui ont raté le train avant, maintenant c'est un nouveau train, un nouveau tronçon. C'est un tronçon qui va être beaucoup plus accessible. Mais en vérité, il peut être accessible seulement grâce au fait qu'on est passé par le premier tronçon du Tania, dans lequel on a expliqué comment fonctionnait l'âme à l'intérieur. L'âme divine, l'âme animale, le combat des âmes. Alors, je vous avais dit que j'avais préparé, bah justement, j'ai oublié. J'ai imprimé les feuilles et tout, que j'avais dit la semaine dernière, mais j'ai oublié dans le bureau. Voilà, donc je les ferai la semaine prochaine, bien évidemment. Bon, on va commencer. Je suis tellement content de commencer quelque chose de nouveau que j'ai oublié. Tout est prêt, c'est imprimé et tout. Alors, on va parler maintenant de différentes choses, différents éléments qui peuvent nous déranger dans l'Avodat Hashem, qui peuvent nous déranger pour servir à Kadosh Baruch Hu. Le thème d'aujourd'hui, c'est la simra, c'est l'importance de la joie. Pourquoi c'est très important quand on sert à Kadosh Baruch Hu, de servir à Kadosh Baruch Hu avec la joie. Et il commence par la joie, après on va parler de beaucoup de choses, de l'anxiété, de la déprime, de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui on va s'arrêter sur l'importance de la joie. On va lire quelques lignes, après on va développer. Donc on est à la page 7, on commence avec ça le chapitre numéro 23. Brahm cependant, que gonda sarir le odoué. Après tout ce qu'on a expliqué, sur l'importance de servir à Kadosh Baruch Hu et l'importance de se battre avec son Yetzer Hara pour servir à Kadosh Baruch Hu comme il faut savoir maintenant Klal Gadol, un grand principe sans lequel, si on n'a pas ce principe, on peut avoir les plus grandes kavanotes qu'on veut, il est impossible de gagner son Yetzer Hara. Grand principe. C'est quoi ce grand principe? Ça veut dire que même si une personne il va utiliser l'amour caché qu'il a en lui pour aimer à Kadosh Baruch Hu, il va utiliser tout ce que tu veux, si on ne va pas utiliser le grand principe qu'on va utiliser aujourd'hui, on perd son temps. C'est comme si on a un moteur qu'on n'a pas allumé. C'est quoi ce grand principe? En fait, la meilleure manière d'expliquer ce principe, c'est d'expliquer comment se base un combat physique. Imaginez-vous un ring. Un ring. J'ai jamais été dans un ring, mais imaginez-vous un ring. Un ring de boxe. Puisque n'oubliez pas qu'on a dit qu'il y a toujours un combat entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Le bon penchant et le mauvais penchant. C'est un combat. Alors, si je vous pose la question, d'après vous, dans un ring, d'accord, quel est l'élément le plus important, le plus déterminant pour assurer la victoire? Vous êtes avec moi? Hop, à votre taille. Si je vous pose la question, d'accord, dans un ring, alors on parlait d'un ring, dans un ring, quel est l'élément le plus déterminant pour assurer la victoire? Qu'est-ce que vous pensez?
Le mental.
Le mental?
Le courage.
Dites-moi ce que vous pensez. Le courage?
Il faut foncer.
Il faut foncer. Bon, d'abord, on est d'accord que quand deux personnes viennent s'affronter l'un avec l'autre, c'est que les deux sont des joueurs de très haut niveau.
Ouais.
On est d'accord? Oui, d'accord, non, mais si les deux sont venus s'affronter l'un contre l'autre, c'est que normalement, c'est des joueurs de très haut niveau, les deux.
Bon, peut-être. Ça peut être, tu peux avoir un tocard avec un...
Quand t'as, par exemple, deux équipes de foot qui jouent l'une contre l'autre.
Oui, il peut y avoir une équipe tocard et une autre équipe qui est...
En général.
Il n'y a pas de généralité.
Tu le vois à la Coupe du Monde, il y a des petites équipes et des grosses équipes.
D'accord, quand tu as maintenant un ring en général. Si tu as l'un contre l'autre, c'est qu'en général ils sont les deux des oui, joueurs de très haut niveau. Normalement.
Il y a des sélections.
Très bien, il y a des sélections. Mais pas comme ça.
Ils ont passé les sélections.
Si moi je viens et je dis que j'ai envie de jouer contre vous, ils vont dire attends, doucement, attends, tu sais pas te battre. Ouais. Donc il faut que ça soit. Ça veut dire qu'il y a une sélection, on est d'accord. Maintenant, je vous ai posé la question, j'ai dit, d'après vous, bonsoir, quel est l'élément le plus déterminant dans la boxe? Alors il y en a qui ont dit le courage, il y en a qui ont dit le mental,
le physique.
Le physique. D'accord?
La force.
La force. C'est-à-dire que c'est le plus fort qui gagne?
Non.
Le plus intelligent.
Le plus intelligent qui gagne?
Oui, c'est sûr.
Vous êtes
sûr? Alors, tu peux mettre un...
C'est le plus fort qui gagne.
Alors, regardez.
C'est un ensemble.
Il y a aussi l'endurance.
L'endurance?
Il y a plein de paramètres.
Vous êtes tous passés à côté du paramètre le plus important.
Alors, la stratégie.
La poids. Ouais, tu vas dire la...
Non, non,
la joie.
Pas du tout. Quelle joie, il a. Pas du tout.
La méthode est...
Pas du tout. On va lire ensemble. Regardez. Et vous allez voir que ça, c'est quelque chose qui est applicable dans un ring de boxe. Et donc, ça va être applicable aussi dans notre vie, dans le combat entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Tenez, vous avez des livres ici. Très bien, Razak. Alors. De la même manière que la victoire pour gagner physiquement. Kegon, par exemple, Shne Anashim Amitab Kim Zeimze. Maintenant, on va pas imaginer Stam un combat. Pourquoi je vous ai parlé de la boxe? On va imaginer un combat corps à corps. C'est le combat le plus dur, ça.
Ouais.
D'accord? Quand c'est le combat de loin, bon, c'est un combat de loin. Mais quand c'est un combat de proche, on dit que ça, c'est un combat qui est très très fort. C'est un combat dans lequel on va jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'on laisse rien. C'est ce qu'on appelle en hébreu ma'avak. Il y a milchama. Milchama, c'est la guerre. Il y a ma'avak. C'est quoi ma'avak? C'est une guerre dans laquelle on s'enlace. À tel point que tu sais même plus s'ils s'aiment ou ils se détestent. C'est-à-dire qu'à un moment du combat, c'est tellement fort qu'ils sont en train de s'enlacer. Mais en vérité, ils sont en train chacun de vouloir tuer l'autre. D'accord. Alors, comme les sumo, exactement. Donc, ils sont enlacés l'un avec l'autre, et chacun veut faire tomber l'autre. Parce qu'on sait que tant que la personne est debout, il peut se battre. Une fois qu'il est par terre, il est cuit. Et c'est pas d'aujourd'hui, ça. C'est déjà écrit dans le Tania. Alors, iné. Voyons. Ima echad ou beatzlut urvedut. Si un des deux qui sont en train de se battre, est plus beatzlut urvedut, ça veut dire qu'il est plus fainéant, et il est plus lourd. D'accord? Comme ils ont traduit ici par indolent et pesant. Ça veut dire que s'il est pas souple, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Yenutzar Bekal, il sera vaincu facilement. Veipol, il va tomber. Gam imu gibor yoter mechavero, même s'il est physiquement plus fort que l'autre. Ça veut dire que même si physiquement, il est beaucoup plus entraîné que l'autre, il est beaucoup plus fort, mais concrètement, si dans sa tête, il est fainéant, dans sa tête, il a perdu, automatiquement, il aura perdu. Ça veut dire que l'élément le plus déterminant, c'est quoi? C'est la détermination. L'élément le plus déterminant, c'est la détermination. C'est pas un jeu de mots, c'est la réalité. Si dans sa tête, il est déterminé qu'il va gagner, il va gagner. Il n'y a rien de plus facile pour le Yetzer Hara, pour faire tomber quelqu'un, de lui enlever sa détermination et le casser dans la tête. Je vais vous donner un exemple que j'avais donné justement quand j'ai retrouvé mes notes. Je vais vous donner un exemple que j'avais trouvé, c'était dans le premier cycle qu'on a fait du Tania. C'est les grosses sociétés. Prenez par exemple les grosses sociétés comme Microsoft, comme Intel, etc. Comment ils font lorsqu'ils veulent virer quelqu'un, mais que ça leur coûte très cher? Vous savez que quelqu'un qui a l'ancienneté, ça coûte très cher de le virer. Comment ils font pour le virer? Ils mettent au placard. C'est quoi le mettre au placard? Là maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre dans un bureau, ils vont lui dire, voilà, t'as un ordinateur, avec internet, et tu fais ce que tu veux. Bonhomme, il est hyper content. Il n'a pas de travail. Et il est payé. Le problème, c'est qu'il reste là une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois. À un moment, il n'en peut plus. Il dit, mais qu'est-ce qui te dérange? Moi, la vérité, moi, je serais à sa place, j'aurais écouté les cours de Torah. Mais bon. Il y a des gens qui sont déprimés à cause de ça.
Après, ils vont licencier pour ça.
Attends, non, ben non, il a le droit, il m'a pas donné le boulot. On le met dans un poste qui sert à rien. Et comme ça, on le déprime. Et il y a un principe qui dit que quand une personne est déprimée, il devient un zombie. Ouais. Tu fais ce que tu veux de lui. Ouais. C'est-à-dire que même si c'est une personne qui est très forte, qui est très puissante, qui est très influente, si son moral n'est plus là, si dans sa tête, il n'est plus là, c'est un zombie, tu peux faire tomber comme tu veux. Ben, c'est la même chose. Quand c'est un combat entre deux personnes, physiquement, qu'est-ce qui se passe? Si un des deux, même s'il est très fort, s'il est atzel vekavet, s'il est lourd, s'il est pesant, s'il n'est pas content, s'il n'est pas déterminé, il va tomber facilement. Kacha mamash benitzachon ayetzer. C'est exactement la même chose quand on parle de gagner son yetzer hara. On a un yetzer tov, on a un yetzer hara. Et je vais vous dire ce qui arrive très souvent. Le yetzer hara, il est chaud. Et lui, il n'est pas indolent. Lui, il n'est pas pesant. Lui, le yetzer hara, il est très très souple. Ça veut dire que dès qu'il y a une bêtise qui passe devant tes yeux, au quart de tour, il décolle. D'un autre côté, notre Yetzer Tov, notre bon penchant, il peut être très très lourd, il peut être bureaucrate. Pff, avant qu'il décolle, attends, on va réfléchir, peut-être on va prendre un cours, peut-être on va rajouter ci, peut-être on va rajouter ça. Mais entre temps, l'autre, il est déterminé, il écrase. Ça veut dire que tu peux être le juif qui a la plus grande émouna possible, mais si ton Yetzer Hara est déterminé et ton Yetzer Tov n'est pas déterminé, il est pesant, il est indolent, il n'est pas déterminé, automatiquement, le Yetzer Hara, il vient, une pichette, il fait tomber par terre. Alors qu'en vérité, entre les deux, qui est plus fort? C'est le Yetzer Tov. Et ça, on le voit dans la vie de tous les jours. Comment le Yetzer Hara, il peut nous faire tomber comme ça? Tout ça à cause de quoi? À cause du fait que la personne est déprimée. C'est pour ça qu'on va expliquer dans la suite la gravité d'être déprimé. Vous savez, on dit dans la Chassidout, il y a un dicton chassidique qui dit comme ça. Il dit, il y a deux choses. Il y a une chose qui n'est pas écrite dans la Torah en tant que mitzvah, mais le bienfait qu'elle peut faire, aucune mitzvah ne peut faire. Et il y a une chose qui n'est pas écrite dans la Torah en tant qu'avéra, mais le malfait que ça peut faire à la personne, aucune avéra ne peut faire. C'est quoi les deux choses? La joie. C'est pas une mitzvah de la Torah d'être joyeux. une personne qui est déprimée n'enfreint aucune avéra de la Torah. D'accord ? Aucune. Il n'y a aucune avéra de la Torah qui te dit, aucune misère qui te dit, tu seras joyeux. Aucune avéra qui te dit, tu ne seras pas déprimé. Et pourtant, la joie peut amener à une personne plus que ce que toute autre misère peut amener. Parce que quand t'as la joie, t'as tout. Quand t'es déterminé, t'as tout. Et d'un autre côté, il n'y a pas d'avéra dans la Torah des déprimés, mais ce que la déprime peut amener à une personne, aucune avéra peut détruire autant que la déprime. Alors, en passant, on va expliquer dans les chapitres suivants, on va s'arrêter longuement, sur la différence entre la mélancolie et la déprime. On expliquera aussi la différence entre la dépression et la déprime. C'est pas la même chose. D'accord? Je donne un exemple. Je donne tout de suite un exemple pour expliquer parce qu'il ne faut pas qu'on se perde. On donne un exemple en Hassilut, on dit quelle est la différence, par exemple, entre une personne qui a la mélancolie, d'accord? Donc on va dire déprime et dépression. Voilà, on va simplifier la chose. Je vous donne un exemple. Imaginez, par exemple, que quelqu'un vous a dit quelque chose et que ça vous a blessé fortement. Bon. Par exemple, il vous a fait une remarque sur votre façon de travailler. Bon, ça blesse. Tu t'es donné beaucoup de mal pour préparer un produit, pour livrer un produit, et tu livres le produit, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, mais il est nul ton produit. Deux options. Première option possible, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez toi à la maison, tu te mets sous la couverture et tu t'oublies. Deuxième option, tu te reprends en main et tu dis, je vais leur montrer que je suis capable de faire. Entre les deux, d'après vous, lequel est la dépression et lequel est la mélancolie?
Mais c'est la mélancolie.
Le premier, c'est quoi le premier?
C'est la dépression.
Premier, c'est la dépression.
Bien sûr,
il ne veut plus rien. Il lâche tout. Ouais. Mélancolique, c'est pas forcément négatif. Ça veut dire qu'on m'a touché quelque chose de très profond et ça va me pousser à agir. Là, maintenant, on ne parle pas de la mélancolie. Mais même la mélancolie, c'est pas bien. Là, on parle surtout de la déprime. Une personne qui est déprimée, le Yetzahara, il fait ce qu'il veut de lui. La Gemara Zaken, il insiste beaucoup ici pour faire un effort de ne pas tomber dans la dépression. Maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis déprimé. Vous savez que la déprime ne vient pas d'un coup.
Avec les soucis de la vie. Hein.
On sent quand elle arrive. Et on se laisse un peu aller des fois. On se laisse un peu tomber, on se dit bon, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? La vérité avec ce qu'il m'a fait, bah, je me laisse aller. Et là, maintenant que vous allez apprendre ce chapitre, c'est maintenant qu'il faut l'apprendre ce chapitre. Parce que maintenant vous n'êtes pas déprimé, je vois sur vos visages quand vous êtes souriant. Bon, Rachel. Donc c'est maintenant qu'il faut l'apprendre. Comme ça, lorsque le Yetzara, il est en train de vous rendre déprimé. Maintenant, on peut être déprimé de beaucoup de choses. On peut être déprimé parce qu'on croit que ça va pas à la maison, parce que ça va pas au travail, parce que ça va pas dans la Torah. On peut être déprimé de beaucoup de choses. Il t'explique ici, il te dit, ne tombe jamais dans le panneau du Yetzara de tomber dans la déprime. Parce que dès que tu tombes dans la déprime, le Yetzara après, bah, il t'envoie une avéra et il te fait tomber. Et on va pousser très loin, ça.
Et comment on fait pour tomber dans la déprime?
Je te laisse pas faire. C'est dans le mental. Tout dans la tête.
Justement.
Quand je vais te donner quelque chose, en vérité c'est qu'on devrait en parler plus tard, mais je vais t'en parler maintenant. Quand le Yetzahara il vient te voir, il te dit David, t'es un naze, t'es bidon.
Il n'a pas intérêt de dire ça.
D'accord, non, je te dis. Si le Yetzahara vient te voir, il te dit David, t'es naze, t'es bidon, t'avances pas. Et que tu te laisses aller dans ce sentiment.
Il a gagné.
Garantie, je peux te garantir que dans l'heure suivante, le Yetzahara va te proposer une avéra et tu vas la faire. Et qu'en vérité il est en train de te préparer à la avéra, seulement comme il savait que David, le puissant, le vaillant, n'allait pas l'écouter. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a déprimé pour te dire t'es un naze. Et comme il t'a attrapé, parce que tu dis c'est vrai, je suis un naze. Peut-être c'est vrai que bien match, je devrais être mieux. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Dans l'heure suivante, il te propose une avéra, tu plonges.
Mais comment je fais pour le contrer?
Tu le contres pas, tu rentres pas dans son piège. Tu ne l'écoutes pas.
Mais c'est dans la tête.
Ben oui, dans ta tête. Tu t'en penses dans ce piège.
Tu
n'y penses pas, tu penses à autre chose.
Remplis-toi la tête.
Quand tu te mets dans la tête, t'es un rachat, tu lui dis, moi je suis un grand sadique.
Tant pis pour lui.
Et si t'es pas un grand sadique?
On est tous des grands sadiques.
On verra plus tard. Alors, on va revenir au texte, on va pas perdre le fil. Donc, Car, Hamamash Benitzachon Ayetzer, je suis en bas de la page numéro 7, il est exactement la même chose, Benitzachon Ayetzer, concernant la victoire contre le Yetzerara. Iev Charles Natro, on peut pas le vaincre. Beatzlut Urvedut. On peut pas vaincre le Yetzerara lorsqu'on est dans un état d'indolence et pesanteur. Impossible. Anim Shachot, mais Atzvut, Vetin Tumalev qui Even. Vous savez ce qu'il arrive? Des fois, hein, tellement on est triste que le cœur devient bouché comme la pierre. C'est-à-dire qu'on sent que rien nous parle. Et c'est fini, le Yetzahara fait ce qu'il veut de toi. Quand, dès qu'on parle d'une mitzvah, je suis insensible, et dès qu'on parle d'une avéra, bien sûr je suis sensible, j'ai envie de la faire, il fait ce qu'il veut de moi, le Yetzahara, il m'écrase comme il veut, il fait ce qu'il veut avec moi. Donc première chose qu'il faut combattre la déprime. Il faut tout faire pour être Bessimra. comme il explique ici, qui bizrizout. Qu'est-ce qui amène la simcha? La simcha, c'est l'empressement. Vous savez, comment on peut voir une personne qui est une personne qui n'a pas envie de faire, qui est dégoûtée, et une personne qui est joyeuse? C'est très simple, il suffit de voir leur démarche. Vous savez, par exemple, lorsque votre femme vous demande le dimanche, elle dit, viens, on va sortir là-bas. D'accord? Et toi, t'as pas envie de sortir, ça te prend la tête.
Bon.
D'accord? Dans ta démarche, elle voit si t'as envie d'aller ou pas.
Oui, bien sûr.
Maintenant, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ça y est, je suis parti maintenant, je me suis levé.
Non. T'as pas envie d'aller quand même.
Dans ta démarche, on voit. Est-ce que tu marches? Est-ce que tu marches, Bessimra, avec la joie, avec le sourire? Ou est-ce que tu marches comme ça? Dès qu'il y a le moins petit truc, il y a un petit coup de nez, ah, t'as vu, je t'avais dit, voilà, il va pleuvoir. Il y a du vécu, hein? Alors, comment elle a remarqué votre femme? Parce qu'elle voit, quand une personne n'est pas Bessimra, quand une personne n'a pas envie de le faire, tu le vois comment il est nonchalant. Quand une personne est contente, tu le vois comment il est là, il bouge, même quand il y a un petit obstacle, c'est pas grave, fais attention, on y va, c'est pas grave, on ira quand même, on se débrouillera. C'est la même chose avec le Yetzerara. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzerara? Le Yetzerara, lorsqu'il a réussi à me rendre pesant, il fait ce qu'il veut avec moi. La seule manière, c'est quoi? C'est de se forcer à être bizrizout. C'est quoi bizrizout? Zrizout, ça veut dire avec l'empressement. Anim shechet misimcha. L'empressement provient de la joie. Uftirat alev, ça veut dire l'ouverture de mon cœur. Quand mon cœur est ouvert, quand mon cœur est ouvert à entendre ce que l'autre a à me dire, quand mon cœur est joyeux, automatiquement, je suis empressé à le faire. Quand je sens que je ne suis pas empressé à faire une mitzvah, il faut me travailler. Quand je sens que je me lève le matin et que j'ai pas envie de me lever, c'est pas bon. Il faut me travailler sur ça. Il faut me travailler pour m'expliquer pourquoi c'est bon de me lever le matin et de me lever pour aller faire la tefillah, pourquoi c'est une bonne chose. Quand je me lève, Shabbat après-midi, je suis comme ça, j'ai pas envie d'aller, etc. Qu'est-ce qu'il a retenu mon gosse quand il a vu ça? Il a retenu que aller à la synagogue Shabbat après-midi, c'est une galère. C'est ce qu'il a retenu. Qu'est-ce qu'il va se dire? Non mais la vérité, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, moi quand je serai grand, je ferai pas des choses galères. C'est la vérité.
Allez,
d'accord.
On y va pas.
Il faut se travailler pour être bizrizout, pour s'empresser. Maintenant, on n'arrive pas à tous les coups, évidemment, sinon on serait des tzadikim. Ah, sinon on serait pas là. Là, on n'est pas dans le livre des tzadikim, on est dans le livre des bénonim ici. Mais ça, c'est notre challenge. Notre challenge, ça veut dire qu'il t'explique ici, avant même de penser à faire la mitzvah, il faut aussi penser comment je vais faire la mitzvah. C'est pas la kavana, c'est la démarche. La démarche de la mitzvah. Quand je fais une mitzvah, je dois faire la mitzvah avec la simcha, avec l'empressement. Vetaharato mikol nidnud de'aga ve'etsev ba'olam. Lorsque je suis joyeux, automatiquement, j'ai pas de tristesse, automatiquement, j'ai pas d'angoisse, j'ai pas de soucis. Une personne qui est joyeuse, c'est comme un enfant. Regardez la joie d'un enfant. Il a pas de soucis. C'est la même chose. Le yetzerara, quand il te met une avéra dans la tête, tu crois qu'il te met les soucis dans la tête en même temps? Tu crois qu'il te fait penser à la punition que tu auras après? Il t'enlève tous les soucis. Au moment où il te met la vera dans la tête, il dit maintenant on va kiffer. Il n'y a pas de soucis maintenant. Et c'est comme ça que ça marche. Comment il marche le Yitzhara? Il t'enlève tous les soucis. Il dit oublie tout maintenant. Maintenant tu vas t'occuper de la vera que je te propose. Et il essaye, il met tout de côté et ça marche. Et il te dit maintenant on va s'empresser à faire la vera, on fait la vera. Et bien c'est exactement comme ça qu'il faut dans la mitzvah. Tout mettre de côté. Vous savez, le Yitzhara, il commence à travailler, il dit, attends, pour que tu te prends, tu vas faire la mitzvah, mais t'as vu ce que t'as fait hier, t'as vu ce que tu vas faire demain, t'as vu les vacances que tu vas passer, t'as vu ce que t'as fait hier, t'as vu ce que... Il commence à te prendre la tête. Je lui dis, laisse-moi tranquille maintenant. Maintenant, je fais ma mitzvah, je mets tout de côté, je suis content de faire ma mitzvah, et tu me laisses tranquille. Demain, on verra. C'est comme ça qu'il faut parler à son Yitzhara. Il faut pas le laisser nous déprimer. Il faut pas le laisser nous rappeler notre passé, nous rappeler notre futur, et nous rappeler ce qu'on est maintenant. Il faut pas le laisser. Il faut tout mettre de côté. Il faut avoir la pureté du cœur comme un enfant. Quand on s'apprête à faire une mitzvah, on doit avoir l'empressement, le même empressement d'un enfant. D'ailleurs, on dit que chez les chassidim, on disait la chose suivante. Il y a une grande différence entre la manière comment un juif qui n'est pas chassid perçoit le mois d'Eloul, parce que vous savez, on va aller en vacances, après les vacances, il y a le mois d'Eloul qui nous attend. Il faudra payer la facture. Et alors on dit, celui qui n'est pas chassid, dès qu'il voit le mois d'Eloul arriver, Eloul, c'est le rachet tevot de Oili va voili. Malheur à moi, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est tout de suite d'emblée, tu vois. Dès qu'un juif qui n'est pas chassid, il voit arriver Rosh Hashanah, il voit arriver le mois d'Eloul, oh là là, malheur à moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Yom a dit, le jour du jugement, je vais prendre sur la tête. Qu'est-ce qu'il fait un chassid? Chez un chassid, les chassidim, ils disaient en yiddish, Eloul, c'est les initiales de Ober les Chaim, Vider les Chaim. Encore les Chaim, encore les Chaim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chassid, il apprend à tout voir avec la joie. Est-ce que ça veut dire qu'il va pas demander pardon à quelques jours pour la vérité qu'il a fait? Chas v'shalom. Est-ce que ça veut dire qu'il ne sait pas que Rosh Hashanah c'est le Yom Hadin? Bien sûr qu'il sait Rosh Hashanah c'est le Yom Hadin. Mais ça veut dire qu'il ne va pas se laisser déprimer. Il ne va pas tomber dans la déprime de dire « ça y est, c'est fini, maintenant le Yitzhahara il va m'écraser et c'est fini, catastrophe, qu'est-ce qu'on va devenir ?» Pas du tout.
L'angoisse.
Dans la Chassidoute, on explique l'importance qu'on doit avoir d'être tout le temps Bessimra. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, que ce que la déprime peut faire à une personne, aucune avéra ne peut faire. La déprime peut tuer une personne. Moi, j'ai vu de mes yeux des gens comme ça. Des gens qui étaient très forts, ils ont eu des choses qui sont arrivées dans leur vie, ils sont déprimés. Zombies, c'est devenu. Ils sont tombés comme des... Comme un château de cartes. Comme un château de cartes sont tombés. Quand une personne perd la simcha, quand une personne perd l'empressement, c'est terminé. Il n'a plus envie d'aller au boulot. Même quand il va au boulot, il n'a plus envie d'être au boulot. Automatiquement, les clients le ressentent. Automatiquement, il n'a plus envie de travailler. Mais c'est fini. Après, c'est... Automatiquement, sa femme ne le supporte plus. Automatiquement, ses enfants ne le supportent plus. Après, c'est fini. Voilà, après, c'est fini. Après, tout s'écroule. Il faut tout faire pour ne pas tomber dans la déprime. Même quand ça nous arrive, il faut tout faire pour en sortir. Tout faire. Pour...
Oui, mais comment?
Comment?
Pourquoi cet extrait?
Bonne question. C'est une très bonne question. C'est très bonne question.
Tu as répondu quoi?
Alors, non, j'ai pas encore expliqué.
Tu as répondu?
Non. Non.
Il faut les chasser.
Oui, d'accord, mais lui, il te dit quand t'es déjà dedans maintenant.
C'est des mots,
c'est
de la chasse.
Oui, mais c'est des grands mots. C'est des grands mots. Il arrête, c'est une très bonne question.
C'est comme...
Alors, mais avant de répondre à la question, il faut d'abord expliquer la gravité de la déprime. Après, on va expliquer comment on s'en sort. Vous voyez ce que je veux dire?
Non,
d'abord, on explique la gravité.
Il n'y a pas de réflexion là?
Il n'y a pas de?
Non, de réflexion.
On va voir. Les techniques, on ne l'a pas encore donné.
Là, maintenant, s'il y a de la réflexion, il n'y a pas d'empressement.
Mais quand tu parles du mois des jours,
je t'écoute.
Ils sont avec la simcha au moment du mois des jours. Mais
tu passes à autre chose, la déprime.
Ça veut dire que. Ils ont, en réalité, le jour de Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin.
Oui.
Mais Yom Hadin et le jour de Kippour, c'est normalement pour demander
pardon
à Kadosh Baruch Hu pour toutes les avérotes qu'on a fait envers lui. Mais comment tu peux demander pardon à Kadosh Baruch Hu de toutes les avérotes que tu as fait envers lui avant Rosh Hashanah ou de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour? Si tu n'as pas fait une introspection,
bien sûr tu vas la faire.
Sur l'ensemble de l'année.
Mais
si tu as fait une introspection sur l'ensemble de l'année, de ce que tu aurais dû faire, ce que tu n'as pas fait, ou de ce que tu as fait, ou que tu as mal fait, ou que tu machins, et que c'est pas que ça te rend triste, c'est que c'est pas une question que ça te rend triste, au contraire, c'est pas ça. C'est que tu dis, merde, excuse-moi, mais voilà, j'aurais dû faire ça, j'ai pas fait ça, comment je vais faire?
Qui a dit que faire teshuva doit être avec la déprime?
Non, on parle pas de ça.
Bah oui. Qui a dit? Une fois, le rabbi de Saint-Marcel, avec le petit-fils de l'auteur de ce livre, il a fait un discours à ses élèves. Il avait l'habitude, quand il disait les discours, Mamarim, il fermait les yeux. Une fois, il a fait un discours pendant les 10 jours de Teshuva, un discours très très fort sur la Teshuva. Il ouvre les yeux, il voit tout le chassidim en train de pleurer. C'était un discours très fort. Il leur a dit, c'est vrai qu'il faut faire Teshuva, mais faire Teshuva, c'est une mitzvah, et une mitzvah, il faut la faire avec la joie. Il a commencé à danser. Ça veut dire que c'est pas incompatible.
Oui, d'accord, je comprends que c'est pas incompatible.
Je vous ai raconté l'histoire du Baal Shem Tov. Je vous ai raconté l'histoire du Baal Shem Tov avec celui qui a nettoyé les poubelles. Tu peux raconter ou pas?
Non.
Ah, elle est elle est magnifique cette histoire. On va raconter une pantine, on va faire une petite pause. Allez, c'est modulé maintenant, on fait un peu d'histoire. Alors, l'histoire est la suivante. Une fois le Baal Shem Tov, il arrive dans une ville. Et il était de passage. Et il comprend qu'il va devoir passer Rosh Hashanah Kippour dans cette ville. Parce que bon, c'était à l'époque où on partait pour des longs parcours. Il comprend qu'il doit passer. Alors, il fait ce qu'on appelle, on aura plus aujourd'hui ça, un appel d'offres. Et il dit au chassidim, cherchez-moi un bet midrash, une synagogue, dans laquelle je pourrais passer Rosh Hashanah Kippour. Bien sûr, toutes les synagogues se battent pour accueillir le Baal Shem Tov. Imagine avoir le Baal Shem Tov dans ta synagogue. Alors le Baal Shem Tov dit, il n'y a pas de problème. Il dit à tout le monde, il dit, je veux voir tous les chazanim. Tous les chazanim de chaque synagogue, et par rapport à ça, je vais décider dans quelle synagogue je vais prier. On envoie un chazan, premier chazan arrive, Baal Shem Tov il écoute. Il pose quelques questions, comment tu fais telle prière, comment tu fais telle prière, pas des airs, juste pose des questions, comment tu fais ça, comment tu fais ça. Bon, Baal Shem Tov lui dit, bon, merci, on te recontactera, façon de parler, d'accord, etc, etc. Et il y a un troisième, d'accord, qui arrive, et là, le Baal Shem Tov lui dit, alors, vas-y, raconte-moi comment tu fais ta tefila, etc. Et là, l'autre, il commence à chanter, il fait un air joyeux sur Hachamnu Bagadnu, nous avons fauté. Baal Shem Tov, il a entendu ça, il était choqué. Il lui dit, mais... Tu réalises la traduction de ce que tu es en train de chanter? Tu chantes un air joyeux sur Hachanou, nous avons fauté. Mais c'est pas joyeux d'avoir fauté. Nous avons fauté, etc. C'est pas joyeux. Alors, le juif, il a répondu au Baal Shem Tov, il a dit, je vais vous répondre avec une année, je vais vous répondre avec une parabole. Il y avait une fois un roi qui avait un serviteur fidèle. Et le serviteur fidèle, il avait un hobby, c'est que, de temps en temps, il faisait le tour du palais du roi. Et dès qu'il voyait des déchets, etc., des choses qu'il fallait arranger, il nettoyait. C'est son plaisir. Tellement il aimait le roi qu'il faisait un tour dans le palais, dans le domaine du roi. Et chaque fois qu'il voyait quelque chose à nettoyer, il nettoyait. Mais bon, en général, il ne s'éloignait pas trop dans le domaine. Il avançait, après il revenait parce que bon, on l'attendait. Une fois, il s'est perdu dans ses pensées. Il avançait, 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 avançait. Il est allé jusqu'au fond du domaine du palais. Jusqu'au fond du domaine. Et là, qu'est-ce qu'il a vu? Il y avait un endroit, au fond comme ça, au fond de la muraille. Il y avait un endroit qui était devenu une décharge. Avec le temps, comme ce n'était pas fréquenté par le roi. C'était devenu une décharge, ils ont mis là-bas des poubelles. Et lui, quand il a vu ça, il s'est mis à pleurer. Il a dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une partie du palais du roi s'est devenue une décharge? Alors il s'est mis à pleurer. Mais en même temps qu'il s'est mis à pleurer, il a commencé à nettoyer parce qu'il était content de nettoyer. Alors il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il pleurait, il dansait, il nettoyait. Il pleurait, il dansait, il nettoyait. Pourquoi il dansait? Parce qu'il était content d'avoir découvert ça et de nettoyer. Alors il dit, c'est la même chose. Comme ça, il dit le Chazan Baal Shem Tov. Il dit, moi aussi, quand je fais Hashem Lou Bagadnou, il dit, je pleure, je nettoie, je danse. Je pleure, je nettoie, je danse. Baal Shem Tov, quand il a entendu ça, hein, il a dit, c'est toi que je veux pour la tefila de Rosh Hashanah. Et depuis, c'est depuis que c'est devenu que la tefila de Rosh Hashanah et Kippour chez les Chassidim, c'est toujours été une tefila avec beaucoup de simcha. Je vous ai déjà raconté cette histoire, non? Vous vous rappelez pas? Non. Hein? Je les ai racontés?
Oui.
Peut-être au couchure devant de Shabbat matin, je les ai racontés. En tout cas. D'accord? C'est une histoire magnifique. C'est une histoire qui montre que quoi? Que même si on fait teshuva et même si on va pleurer, c'est pas incompatible avec le fait qu'on doit être joyeux. D'accord? Vous savez, par exemple, des fois, surtout quand on attend.
D'accord, un millimètre.
Un doigt.
Alors on va faire une pause, les Chaim. Chevre, les Chaim, finissez les verres. Les Chaim.
Vite.
Ça jacasse.
Allez, je suis.
Je te garde. Viens, David, donne à.
Tu passes. Tu colles, les gens. Amen.
Tu peux donner à monsieur Haddad, s'il vous plaît. À monsieur Haddad.
Merci, grand.
Je vais vous donner un exemple concret. Quand par exemple vous apprenez une nouvelle très triste, et bien sûr vous vous mettez à pleurer, parce que même une personne qui peut le fort, des fois les nouvelles, c'est des nouvelles tellement dures qu'on se met à pleurer. Comment je me sens après avoir pleuré?
Mieux.
Est-ce que je me sens déprimé?
Non, soulagé.
Ou est-ce que je me sens au contraire, bon, maintenant que j'ai mis de côté maintenant mes larmes, maintenant il faut qu'on agisse.
Oui.
Il y a des gens qu'après qu'ils ont pleuré, ils sont déprimés.
Pardon,
oui. Là ça c'est pas bon. Si après que j'ai pleuré, je me sens au contraire, je me sens dégagé, et je me sens au contraire que maintenant je vais avancer et je vais montrer que je ne veux pas tomber dans le piège, là ça veut dire j'ai compris. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Ce qu'il dit ici. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que, a priori, d'après ce qu'on a dit ici, l'ennemi numéro un de l'homme, c'est quoi, hein, David?
La déprime.
La déprime. La déprime. Quelle est la technique numéro un? C'est la joie. La joie qui va procurer l'empressement, et quand tu as l'empressement, tu fais tout. Regardez, est-ce que ça vous arrive des fois des matins, vous réveillez, vous sentez que vous avez la pêche?
Oui.
Tu sens que t'as la pêche.
Et des fois, on n'en a pas.
Et tu vois, tu brasses les dossiers comme tac, 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 tac. En une demi-journée, tu fais ce que t'aurais dû faire en une semaine.
Oui.
Et des fois, des matins, tu te réveilles, t'es nonchalant.
Démarré.
Tu ouvres le dossier, tu dis bon, laisse tomber, bon, on verra demain, on verra tout à l'heure, on verra dans une heure. T'es arrivé à la fin de la journée, t'as rien fait. Comment ça se fait? Hein? Bien sûr, ça nous arrive souvent. C'est-à-dire, tu viens, tu prends. Tu ouvres le dossier, tu dis bon, je suis fatigué, je vais voir ça plus tard. T'arrives pas, tu vas flou. Pourquoi? Ça nous arrive à tous. Pourquoi? D'accord? Voilà, ça m'est arrivé ce matin. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il me fait toujours que les choses que je parle en tenais, ça m'arrive. Ça m'arrive ce matin. J'avais un dossier que je devais faire. J'ai ouvert un dossier pendant une heure, j'arrivais pas à avancer. Enfin, moi, je me suis repris parce que je me rappelle le cours de Tania. Je me suis repris. Et après, cheval. C'est accouru après. C'est comme ça. Tout est dans la tête. Quand dans la tête, on décolle pas. Tu décolles pas, t'avances pas, c'est même pas forcément de la fatigue. Après, on peut dire oui, c'est parce que j'ai dormi tard hier, parce que c'est la fatigue, c'est même pas de la fatigue. C'est, ça décolle pas. Ça décolle pas. La zrizout, l'empressement, quand on est empressé, on peut tout faire. C'est ce qu'il dit ici. Donc, si on s'arrête ici, dans ce chapitre, ça veut dire que la déprime est à bannir. La tristesse est à bannir. Il faut être joyeux. Le problème, c'est qu'il va amener maintenant d'autres versets dans la Torah qui veut nous parler des bienfaits de la tristesse.
souvenir, peut-être.
C'est pas la... Ah, mais là, c'est pas le problème. C'est que là, maintenant, on s'arrête. D'après, si on s'arrête ce qu'on a dit ici, on a expliqué qu'il faut avoir que la Simra. Pourtant, on va amener maintenant des versets, différents versets dans la Torah, qui expliquent l'importance, qui expliquent les bienfaits de la tristesse. Le roi Salomon en parle, la Gemara en parle.
L'amertume,
la tristesse, etc. Alors, il faut se décider. Est-ce que l'amertume, c'est bien ou c'est pas bien?
C'est plutôt le souvenir.
On va en parler. D'abord, on va voir les versets. Alors, je suis au milieu de la page 8. Ma shekatuv bechol etsev yemutar. Ce qui est écrit dans les proverbes du roi Salomon. Le roi Salomon, dans ce proverbe, il dit bechol etsev yemutar. Dans chaque tristesse, il y aura un profit. De là, ça veut dire qu'est-ce que veut nous faire comprendre le roi Salomon? Qu'il y a un profit à tirer de la tristesse. C'est bien d'être triste.
Bien.
Donc, pirouche, ça veut dire chez Ize Itaron ou Maalamise. Ça veut dire que dans chaque tristesse, il y aura un profit, un avantage qui va découler de ça. Dit l'Admorazake, il ne dit pas du tout. Il dit In et Aderaba au contraire. Milachonze Mashma chez Aetsev Mitzelatmo en Bomaala. De là, on comprend que la tristesse en soi n'a aucune qualité. Rak seulement, chez Agia, via Vomimenu, Eze Itron. La tristesse en soi n'a aucun bienfait. C'est quoi le bienfait qui peut venir de la tristesse? C'est ce qui va découler de la tristesse. Vous allez comprendre où je vais en arriver. Vaïnu, et ça c'est, quel bienfait peut découler de la tristesse? Asimcha ha'amitit ba'ashem elokav. C'est la vraie simcha dans la Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire comme ça. Il est clair, te dit l'Admor HaZaken, que la tristesse en soi, c'est à bannir. Seulement, des fois, il peut arriver que, par exemple, tu as une tristesse, tu penses à quelque chose de pas bien, tu penses au avérot que tu as fait, et après, tu te reprends, et quand tu te reprends, tu es une fusée. Et c'est là qu'on peut dire que de la tristesse, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Seulement, c'est un grand piège. Parce que, qui me garantit que je vais réussir à me reprendre après une tristesse? Très compliqué, personne ne me garantit. C'est un jeu très dangereux. C'est pour ça que les chassidim disaient, faut pas tomber dans ce piège. Même si tu es le plus grand chassid, ne tombe pas dans le piège du Yetzer Hara, stam comme ça, un jour, de te dire, tiens, maintenant, je vais réfléchir à mes averot, pourquoi je suis quelqu'un de pas bien. Jamais il faut faire ça. Fais jamais ça. Comme on expliquera plus tard, même s'il faut réfléchir des fois à ses averot, il faut le faire dans un moment spécifique. Si, par exemple, vous êtes un mercredi après-midi, comme ça, 14h, tout d'un coup, tu te mets à penser aux averot que t'as fait. Qu'est-ce que t'en penses, David? Mercredi après-midi, on est en train de faire des pizzas.
Moi, ça risque pas.
Tout d'un coup, le Yetzer Hara, il te met dans la tête, mais tiens, j'ai fait une avera hier soir. Qu'est-ce que tu penses? C'est bien ou c'est pas bien?
C'est bien. Bah, c'est pas bien parce que t'as pas prévu le truc.
Eh ben, pas du tout, c'est pas bien.
Plus,
ça vient du Yetzer Hara. Il est en train de te déprimer.
En plus, t'es seul.
Le seul cas dans lequel j'ai le droit de penser à mes averotes. D'accord? Le seul cas dans lequel j'ai le droit à penser à mes averotes, c'est quand j'ai prévu. Quand c'est un moment que j'ai prévu. Par exemple, j'ai dit, maintenant, je vais penser. Par exemple, c'est l'heure du Kriyat Shema, l'heure, c'est le mois d'Eloul. Là, je vais réfléchir.
Yom Kippour.
Très bien. Sinon, c'est une technique du Yetzer Hara pour te faire tomber. Vous savez, il y a un mot du Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, il dit que le Yetzer Hara, il peut être habillé comme un chassid. Ça veut dire, voilà, imaginez maintenant, mercredi après-midi, 14h, le Yetzer Hara, je me mets à réfléchir, regarde, pourquoi j'ai fait Tal Avera? Tu dis, mais t'as vu, c'est magnifique, en pleine journée, en plein travail, tu penses à ta Averot. Tu penses à faire tes choses, c'est magnifique. Pas du tout. C'est un piège du Yetzer Hara. Il est en train de me déprimer. C'est garanti, il dira plus tard dans la suite, c'est garanti, mais c'est validé à 100% que dans l'heure suivante, il te proposera de faire une avéra. Ça veut, il est en train de te mettre en condition pour te proposer une avéra.
Il faut chasser la pensée.
Il faut chasser la pensée. Je lui dis, laisse-moi tranquille, je te connais pas. Je suis un grand sadique.
Je te vois de la pizza.
Voilà.
Si c'est arrivé à 14h, tu m'appelles, tu veux plus de la t'es refait déjà plus.
Alors dans les mots. Il dit, donc il dit, c'est l'Admor HaZaken, il dit, les itim mezumanim, ça c'est uniquement quand ça va arriver, les itim mezumanim, à un moment qui est spécifique. Alors dans les mots, excusez-moi, voilà, page 8 en bas de la page, al avonotav marnachov elav nishbar. Quand c'est quelque chose qui est, quand c'est un moment qui est défini. Et je vous donne un exemple, vous savez quoi, avant d'avancer, je vous donne un exemple dans les affaires. Imaginez par exemple que vous vous lancez dans une affaire. Vous êtes dans un plan de restructuration, ou bien tout simplement, vous vous lancez dans une affaire. D'accord? Quand on se lance dans une affaire, on gagne pas tout de suite. Bon. Imaginez-vous maintenant que, je sais pas moi, 3-4 mois après que vous êtes lancé dans l'affaire, tout d'un coup, en plein milieu, mercredi après-midi, 14h, tu dis, tiens, je vais commencer maintenant à faire un bilan pour voir si je gagne des sous. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, Mickaël? Qu'est-ce que t'en penses?
Très mauvais.
C'est très mauvais.
Une journée?
Très mauvais. Jamais il faut faire ça. Il y a un inventaire, Et l'inventaire, il a un timing spécifique qui est prévu pour ça. Quand il y a l'inventaire, tu fais l'inventaire. Quand on commence à vouloir faire l'inventaire tous les jours, c'est comme ceux qui sont au régime et qui se pèsent tous les jours ou toutes les heures. Ça sert à rien, c'est une perte de temps. Ça marche pas comme ça.
Ça démoralise.
Ça démoralise. On est d'accord? Ah, vous avez compris là. Bon, alors c'est la même chose. Aux femmes, il faut dire le régime, aux hommes, il faut dire l'argent. Donc, chacun ses exemples. Quand une personne est là constamment à se peser, quand une personne est là constamment à dire, tiens, je vais vérifier est-ce que mon affaire marche ou pas, on lui dit, laisse tomber. Tu vas te déprimer et tu vas croire que ton affaire ne marche pas et c'est une technique, tu es sûr de tomber. C'est pas comme ça que ça marche les affaires. Dans les affaires, tu as eu un plan. Ne regarde pas maintenant est-ce que ton plan il marche ou pas. Quand tu fais ton plan, il faut regarder droit devant. Tu avances. Une fois par an, deux fois par an, il y a un moment dans lequel on fait un inventaire. C'est quoi l'inventaire? On se retourne pour voir où on en est. Là, tu te retournes. Mais si tu es là constamment en train de te retourner, à force de te retourner, t'avances pas. Il faut pas se retourner. Et même si tu as une pensée dans ta tête qui te dit, tiens, je vais me retourner, je vais voir est-ce que l'affaire elle marche, tu te retournes pas. Tu avances. Tu as prévu, tu as fait une affaire, tu as un business plan, tu t'accroches à ton business plan. Et tu avances. Dans un an, dans la date que tu as prévu que tu devais vérifier, là, tu vas vérifier. Seulement, c'est toujours un piège de la personne, du cerveau humain, qui va dire, non, mais on va vérifier si ça marche. Il faut jamais tomber dans ce piège. Jamais. Quand on a décidé de se reprendre, il faut avancer. Comme ça. Et c'est comme ça dans tout dans la vie. Quand, par exemple, une personne s'est accrochée avec sa femme, d'accord, et que maintenant, on lui a donné un plan de restructuration pour se relancer. Et que le madame, tous les jours, il est là pour voir est-ce que ça a changé. C'est pas comme ça que ça marche. Si le ravi t'a dit, tu reviens dans un mois, eh ben, j'attends un mois. Faut pas de question, hein. J'attends un mois. C'est comme ça que ça marche. Tout dans la vie, c'est comme ça. Quand on a prévu quelque chose, il faut attendre. Il faut attendre le temps qu'on a prévu. C'est la même chose par rapport au Yetzirah et par rapport au Averot. Dieu a prévu des moments spécifiques pour les bilans. C'est quoi le moment spécifique pour les bilans? Le Kriyat Shema du soir. Le Kriyat Shema, par exemple, aussi du jeudi soir. Le Kriyat Shema de la veille de Rosh Chodesh.
Du jeudi soir?
Jeudi soir, ouais, c'est le Chassidim. Ou bien le Kriyat Shema de la veille de Rosh Chodesh. D'accord? Le Kriyat Shema du soir, avant de dormir. Ouais. Ou bien encore le mois d'Eloul. Kippour, Rosh Hashanah, ça c'est des moments, pas de problème. Si la veille de Kippour, je commence à avoir une tristesse de mes avérotes, là c'est bon. Parce que c'était un moment qui a été défini. C'est le moment de l'inventaire. Mais quand je suis en plein milieu d'année maintenant, et je me mets à penser à mes avérotes, non, chute-le, enlève-le, le tsara, il est en train de se chercher à te faire tomber. Très important ce qu'il dit ici. Retenez ces mots, les deux mots. Les itim, mezumanim. Il faut que ce soit un temps qui est fixé. Le moment où je réfléchis à mes avérotes doit être un moment qui doit être fixé. L'inventaire doit être un moment qui est fixé. Sinon, ça marche pas. Ça, c'est un principe que vous appliquez dans toute la vie. Là, moi, je parle par rapport à certains vieux de Sarara, mais ce principe, le principe de ce cours d'aujourd'hui, vous pouvez l'appliquer sur toute votre vie. Par rapport à vos enfants, par rapport à votre femme, par rapport à votre travail, par rapport à tout ce que vous voulez. C'est un principe dans la vie.
Quand,
tout, non, mais non, pas du tout, ça dépend. Il faut voir quand tu as pris la décision, quand tu as décidé que sera le prochain bilan.
Du soir.
Attends, voilà. Oui. Quand tu as pris la décision, tu t'es dit, je ferai un prochain bilan dans combien de temps?
Les 5 du mois.
Le contrôle technique sera dans combien de temps, le prochain?
2 ans.
Sera dans 2 ans? Eh ben, je repars dans 2 ans. Si tu vas commencer à être en quotidien, mais on va vérifier peut-être que. Ne vérifie pas, et pas. Ça roule, tu roules. Mais non, mais je vais vérifier, je vais chez le garagiste, peut-être que. Il n'y a pas peut-être.
Et si ça fait
où? Ça roule, tu avances. C'est un principe dans la vie, ça. Sinon, on est angoissé. Vous savez, il y a des gens, ils sont angoissés. C'est le ramma, ils ont l'angoisse. Même quand il n'y a pas de problème, ils disent, mais peut-être qu'il y a un problème, ça s'arrête pas. c'est un vrai problème. C'est la même chose. Quand une personne, il fait teshuva, il dit, peut-être que ma teshuva n'est pas bonne. Peut-être que j'ai pas avancé. Peut-être que je recule. Pose pas des questions comme ça. T'as décidé d'avancer. T'as fait un plan. Tu avances. Tu roules. Tu regardes pas. Tu ouvres pas le capot. Tu avances. Quand t'arriveras au moment de Rosh Hashanah, des moments spécifiques, là, on pose des questions. Très important ce qu'il dit ici. Et là, effectivement, c'est possible que quand on va arriver maintenant à un moment spécifique comme le mois d'Eloul, comme tu as dit, comme Rosh Hashanah, comme Yom Kippour, là, effectivement, quand je vais réfléchir à ma averot, peut-être que ça va me rendre triste, mais pas une déprime, c'est une tristesse. Et cette tristesse, peut-être qu'elle peut être un déclencheur pour, au contraire, augmenter dans la Torah, augmenter dans les mitzvot. Ça, c'est vrai. Combien de fois on a vu des cas que avant Rosh Hashanah, avant Yom Kippour, on est triste des averot qu'on a fait, on peut pleurer même des averot qu'on a fait, et grâce à ça, on redémarre. Ça n'est pas de problème. Pourquoi? Parce que c'était prévu. Ça vient du Yetzer Tov. C'est le Yetzer Tov qui est pas bien, le bon penchant qui est pas bien. Mais quand ça vient comme ça en pleine journée, c'est du Yetzer Hara. Le Yetzer Tov, il penche pas en pleine journée. Le Yetzer Tov, il te voit faire une mitzvah, il te laisse tranquille. Il dit, vas-y, fonce. Il t'arrêtera jamais pour faire penser à ta averot en pleine journée. C'est jamais le Yetzer Tov, il fera ça.
Pourtant, on fait ta chanon 2 fois par jour.
C'est un moment spécifique.
2 fois par jour.
C'est un moment spécifique. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment.
Donc si le moment, au moment de, du mois de Av, tu sens l'odeur de Elul, ça va.
Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment.
Non mais si tu la sens l'odeur de Elul.
Tu peux sentir ce que tu veux. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. D'accord. Quand on commence comme ça, comme disent les Américains, out of the blue, hein, de nulle part, commence à s'angoisser, tu prends, tu t'angoisses. Des fois, on a des coups d'angoisse comme ça, des coups d'angoisse. Tu dis, mais attends, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? T'as des remords, etc. Pourquoi tu prends ça? Ces remords-là, c'est un piège du Yetzara qui est en train de te préparer pour te proposer une avéra par derrière. C'est à 100%, à tous les coups, c'est comme ça. Faut pas tomber dans ces pièges. Donc là, vous voyez, déjà, il nous apprend les techniques. Il nous apprend les techniques, comment ne pas tomber dans les pièges du Yetzara. C'est une technique très importante qu'il nous apprend ici. Il continue. Il dit maintenant, il dit, alors dans les mots, Chalier Dézé, grâce à ça, Nishbera, Ruachatuma, Vesitra, Haram, Mechita, Shel Barzel, Amafseket, Beno, Lavi, Shebashamaim. Pourquoi de temps en temps c'est important de pleurer? C'est vrai que être joyeux tout le temps, c'est pas bon. Il faut de temps en temps pleurer. Quand c'est prévu, mais il faut pleurer. Pleurer, ça veut dire être triste et réaliser la gravité des choses. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le Zohar que lorsqu'une personne pleure, il se brise. Et lorsqu'il se brise, qu'est-ce qu'il brise en vérité? Des fois, tellement on fait d'Averot qu'on a construit un mur entre nous et Akadosh Baruch Hu. Dur comme la pierre. Il y a un mur. Et quand on se met à pleurer d'Averot qu'on a fait, avec les larmes, on casse ce mur. Automatiquement, il y a une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, on n'aurait jamais pu casser ce mur si on n'était qu'avec la joie. Donc c'est important, bien sûr, de temps en temps, de penser à sa Averot avec tristesse, pour être triste de ce qu'on a fait. Parce que cette tristesse qui va montrer qu'en vérité, c'est pas bien ce que j'ai fait, elle va casser cette barrière qu'il y a entre moi et Akadosh Baruch Hu. Et là, je vais pouvoir communiquer avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce que dit le Zohar. D'ailleurs, sur quoi dit le Zohar? Sur quoi dit ça le Zohar? Le Zohar dit ça, hein, sur le fameux psaume que le roi David a composé sur la Teshuvah, le psaume 51. Le roi David a composé tout un psaume sur la Teshuvah, un psaume magnifique, dans lequel il a décrit toutes les démarches de la Teshuva. Et là-bas, il dit comme ça, comme ce que dit le Zohar, Al-Pasuk, page 9. Allez, suivez dans les mots. Comme c'est écrit dans le Zohar, Al-Pasuk, sur le Pasuk, Ruach Nishbara, Lev Nishbar. Dans le psaume 51, c'est écrit que quand une personne a le cœur brisé, c'est un sacrifice pour Dieu. Bien sûr, c'est un sacrifice pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un moment prévu. Quand c'est un moment qui est prévu, alors de la même manière que quand je fais un sacrifice, c'est quoi? Je prends quelque chose qui s'élève vers Dieu. De la même manière, ma neshama, elle veut monter vers Dieu, mais il y a un mur, j'ai construit un mur entre Dieu et moi. Quand je pleure, automatiquement, j'enlève le mur. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple quelqu'un qui vient ramasser de l'argent. Il y a un mur entre lui et nous. Il y a un mur. Mais quand il arrive à te toucher, et qu'encore plus il arrive à te faire pleurer, qu'est-ce qui se passe? Tu sors le carnet de chèques. Pourquoi? Parce qu'il a fait sauter le mur. Et c'est comme ça que ça marche. Il a enlevé le mur qu'il y avait entre lui et toi, entre moi et le problème. Il a enlevé ce mur, le mur d'indifférence. Il m'a fait pleurer, il m'a touché, donc il a enlevé ce mur, donc automatiquement il y a une communication. C'est la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, la tristesse peut avoir du bon quand c'est prévu, effectivement, pour nous aider à faire sauter des barrières et s'approcher de Kadosh Baruch Hu. Combien d'histoires on a vu des gens qui ont fait des choix grâce à la tristesse? Un jour, ils se sont remis en question. Et vraiment, ils ont compris que c'est pas bien ce qu'ils faisaient. Ils se sont remis en question, ils ont avancé. Ça, c'est très bien. C'est-à-dire, quand ils se sont remis en question, ils ont fait sauter cette barrière, ils ont fait sauter ce mur, et après, ils ont avancé vers un Kadosh Baruch Hu. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut pas en faire une façon de servir un Kadosh Baruch Hu. Vous trouverez jamais un livre qui vous dira, on va servir Dieu avec la tristesse. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. On sert un Kadosh Baruch Hu comment? Avec la joie. De temps en temps, il faut mettre un petit coup de tristesse pour envoyer un coup, pour casser la glace, et après, on repart. Mais jamais la tristesse a été un travail principal. Vous savez, c'est quoi la tristesse? Comme par exemple, vous avez un paillasson, comme vous avez marché dessus, de temps en temps, qu'est-ce que vous faire avec? Il faut le secouer. Alors, est-ce qu'on va dire un paillasson, il est fait pour être secoué? Mais pas du tout, il n'est pas fait pour être secoué. Après, tu le secoues, parce qu'il doit être secoué, parce qu'il est sale. C'est la même chose. Celui qui croit que la tristesse, c'est comme ça qu'on sert un Kadosh Baruch Hu, il n'a rien compris. Il faut servir à Kadosh Baruch Hu exclusivement avec la Simcha. Ah, et à ce moment-là, Yekuyambo Reshedikra. Et là, à ce moment-là, dans le psaume 51, David Amelech, il dit comme ça à Kadosh Baruch Hu. Il dit, fais-moi entendre la joie. Et après, il dit, ça va venir grâce à la tristesse. De là, on comprend quoi, de ce psaume 51? Que des fois, pour arriver à la joie, il faut passer par la tristesse. Que comme il a eu la tristesse de sa Averot, là, après, il aura la vraie joie. Mais encore une fois, parce que c'était prévu. David Amelech, c'était prévu. Vous savez pourquoi c'était prévu? David Ameler, il était dans une situation qu'il y a eu Nathan, le prophète, qui est venu le voir, hein, qui lui a dit, Il a dit, t'es parti avec une femme, que tu n'avais pas le droit de partir avec elle, etc. Donc, il l'a remis en place. Suite à ça, David Ameller a composé le psaume 51. C'est pas que le Yitzhara David Ameller qui est venu le voir, il a dit, tiens, on va penser à la Vera maintenant. Non. Il y a eu un prophète qui est venu le voir, qui lui a dit, écoute, il faut se remettre en question sur ça. Il s'est remis en question. Là, il a pleuré. Là, c'est bon. Parce que c'était quelque chose qui était prévu. C'est quelque chose qui était voulu par un Kadosh Baruch Hu. Et quand c'est quelque chose qui est pas prévu, il faut le bannir, il faut l'enlever de sa tête, il faut pas tomber dans ce piège-là. D'accord? Très important. Comme, vous savez, par exemple, il y a des fois des gens, le doute, c'est quelque chose qui peut tuer une personne, le doute. Dans tout, dans la vie. Une personne se doute, il dit, est-ce que je me suis marié avec la bonne femme? Est-ce que j'éduque mes enfants comme il faut? Est-ce que je suis un type bien? Est-ce que, toutes les questions qu'on va se poser, est-ce que mes enfants, ils sont dans la bonne école? Je sais pas, moi, est-ce que je suis tombé dans la bonne famille? Est-ce que je suis dans un bon environnement? Le doute, c'est tout une personne le doute. Est-ce que je suis dans la bonne ville? Est-ce que je dois faire l'aliya? Est-ce que je dois partir? C'est des questions qui peuvent tuer une personne, mais ça ronge. La Gemara a dit qu'il n'y a pas de plus grande joie que l'un. Est-ce que quoi? Qu'est-ce que t'as dit?
Pourquoi non? Parce que je suis petit.
Pourquoi non?
Et alors? La Gemara a dit qu'il n'y a pas de plus grande tristesse que d'être dans le doute. Il n'y a pas de plus grande joie que de sortir du doute. Vous savez, des fois, quand on a un doute qui peut, des fois, on peut avoir des doutes sur un sujet qui peut traîner pendant longtemps, pendant plusieurs mois. Quand tu arrives à un moment à sortir du doute, c'est une simra. C'est une grande simra. C'est ce qu'il dit ici. D'accord? Ok. Alors, dans les mots, il dit ici, Vezeuta ma pachut. Ok. On est en bas de la page 9. J'accélère, parce que j'expliquais pas mal de choses alors. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Bon, Mickaël, quel est le résumé de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant?
Il faut être dans la joie, c'est tout.
Non, fais-moi résumer, j'ai parlé pendant une heure. Tu dis pas, il faut être dans la joie.
Il faut être dans la joie. Et si demain, si tu as besoin d'être dans la tristesse, c'est parce que.
Qu'est-ce qu'on a expliqué? Que le combat entre le Yitzhar Tov et le Yitzhar Hara est comparable au combat entre deux personnes, entre deux boxeurs. Et que l'élément déterminant qui va permettre la victoire, c'est quoi?
La détermination.
La zrizout, l'empressement, la détermination. D'accord? De la même manière, si le Yitzhar Tov n'est pas déterminé, face au Yitzhar Hara, le Yitzhar Hara, il fait ce qu'il veut de lui. Donc, comment on arrive à la détermination? Grâce à la simcha, la joie intérieure. On a expliqué que la joie, c'est quelque chose de très important, que sans la joie, on peut pas avancer. On a expliqué comment les chassidim insistaient beaucoup sur la joie, que ce que la joie peut faire, aucune misère peut faire. D'accord? Ah, pourtant, on a vu un verset dans Michelet, dans le proverbe du roi Salomon, qui a dit qu'on peut tirer un profit de la tristesse. Qu'est-ce qu'on a répondu? On a dit ça, c'est uniquement lorsque la tristesse était dans un moment qui était déterminé. On savait que maintenant, je vais penser à mes lacunes. Ah, pas de problème. Je pense à mes lacunes, on se remet en question. Pas de problème. Remettons en question. Effectivement, quand on se remet en question, la tristesse qu'on aura du fait que ça tourne mal, grâce à ça, ça me permet de redécoller. Mais si c'est pas le cas, chas v'shalom, ne rentre pas dedans. Parce que le but de tout ça, c'est quoi? Même le but de la tristesse programmée, c'est quoi? C'est d'arriver grâce à ça à la simcha. Ça veut dire que quand on est besimcha, ça vaut de l'or. Faut tout faire pour être besimcha. Quand on arrive à être besimcha, ça vaut tout l'or du monde. D'ailleurs, vous savez, Tikkun Chatzot. Bon, autour de la table, enfin, moi je le fais pas, je sais pas s'il y en a autour de la table qui le font. Tikkun Chatzot. Il y a des gens, il y a des juifs très très pieux, qui se lèvent pendant la nuit. À 2h du matin, ils dorment pas. Ils se réveillent. Et quand ils se réveillent, ils font Tikkun Chatzot. Pas à quelle à 2h, ils se lèvent à minuit. Ils font Tikkun Chatzot. Le Tikkun Chatzot est composé de deux parties. Il y a Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Il y a une première partie du Tikkun, qui est une partie dans laquelle on pleure. On pleure la destruction de Beth Amikdash. Ça, c'est jusqu'à la moitié de la nuit. Il pleure beaucoup. On parle beaucoup de la destruction de Beth Amikdash. Deuxième partie, Tikkun Léa, c'est quoi? Là, on parle au contraire de la Simcha, comment on est content qu'Akadosh Baruch Hu vienne le Beth Amikdash. Pourquoi c'était structuré comme ça? Exactement pour la raison qu'on vient d'expliquer. Que même quand on demande, à certains moments programmés, d'être triste, de penser à la gravité du Beth Amikdash, que le Beth Amikdash n'est pas là, c'est pas être triste pour être triste. C'est être triste pour reconstruire. On vient de rentrer dans les 3 semaines. Les 3 semaines, c'est un moment triste. On n'écoute pas de musique, d'accord? C'est un moment dans lequel pour les Ashkenazim, on se marie pas. C'est un moment triste en général. Pour tout le monde, c'est un moment triste. D'accord? On se coupe pas les cheveux, d'après beaucoup d'avis. Ça veut dire que c'est un moment qui est triste. Pourquoi c'est un moment qui est triste? La tristesse n'est pas un but en soi. C'est pas on dit, bon, maintenant, pendant 3 semaines, on va penser à la gravité que Matamina, je n'ai pas là. Et alors, s'il n'est pas là? Ben, c'est grave. Et alors, si c'est grave? Et alors, ça change quoi qu'il est pas là? C'est pas bon, ça. Quand je juge juste la tristesse pour la tristesse, ça sert à rien. C'est comme une personne. Vous savez, des fois, des gens qui viennent me parler. Ils disent, oui, tu sais, moi, il y a 30 ans, je suis milliardaire. Et alors ? Bah oui, il y a 30 ans, j'étais milliardaire, il se met à pleurer. Il y a 30 ans, j'étais milliardaire. Mais alors, maintenant, t'as rien. Ah mais il y a 30 ans, j'étais milliardaire. Mais ça change quoi maintenant, dans ta vie ? Ça change rien. C'est parce qu'il va te ramener tes sous. Alors pourquoi tu pleures ? Si la personne y pleure pour se dire, il y a 30 ans, j'étais milliardaire, j'ai envie de revenir milliardaire. Bon, c'est un exemple, hein. Bon, là, on peut discuter. Si il dit, par exemple, il y a 30 ans, j'étais religieux et après j'ai quitté. Bon, ok, il veut revenir. Mais Stam pleurait sur ce qu'on a perdu. Il y a un proverbe en hébreu qui dit on pleure pas sur le lait qui a coulé. Il est tombé le lait maintenant, c'est terminé, il est par terre. D'accord ? Alors voilà. Dans Tikkun Ratzot, pourquoi on pleure ? Pourquoi on pleure dans Tikkun Rachel ? Parce qu'on sait que la deuxième partie de la nuit, il y aura Tikkun Léa, dans laquelle on va être joyeux qu'on va demander à Dieu de revenir à la Beit HaMikdash. Pourquoi on est triste pendant les trois semaines ? Parce qu'on sait qu'après on va être Bessimra, on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous ramener à la Beit HaMikdash. Si c'est Stam être triste pour être triste, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Quand on va pleurer pour ce qu'on a perdu, tu crois qu'on sait pas, qu'on sait ce qu'on a perdu, on sait pas ce qu'on a perdu, on sait ce qu'on a perdu. Après, tu veux remuer le couteau dans la plaie pour me rappeler ce que j'ai perdu? Pourquoi ça sert? Ça sert à rien du tout, c'est une bêtise. Le but n'est pas de remuer le couteau pour me rappeler ce que j'ai perdu. Le but est de me rappeler ce que j'ai perdu pour avoir la simra pour mieux avancer. Ça, c'est un principe dans la vie, ça. Dans la Torah, hein, le deuil n'est jamais un but en soi. Quand on a perdu un proche, par exemple, Dieu préserve, le deuil n'est jamais un but en soi. C'est pas que maintenant la Torah te dit tu vas être triste parce que t'as perdu quelqu'un parce qu'il faut être triste. Le deuil est toujours un déclencheur pour mieux avancer. Ça, on le voit. J'ai vu que de mes yeux, quand il y a des gens qui ont réussi à utiliser le deuil pour rajouter des mitzvot sur eux et pour faire les décisions qu'on prend à ce moment-là, c'est des décisions en béton qui ne touchent pas. 50 ans plus tard, ils sont encore là. Ça, c'est le but du deuil. Le but du deuil, c'est de transformer la tristesse en joie, en empressement pour avancer vers un Kadosh Baruch Hu. Le deuil pour le deuil, ça ne sert à rien. C'est pas chez nous, ça. D'accord ? Donc ça, c'est un principe très important qu'on explique aujourd'hui. Le concept qu'il faut tout faire pour rester Bessimra. Donc dans les mots. Vezeut ta'ama pashut. Zeut ta'ama pashut.
Le concept du jeûne, c'est ce qu'on a
expliqué. Exactement. Même le concept du jeûne. Le but du jeûne, c'est quoi ? C'est de faire tes chouva pour avancer vers un Kadosh Baruch Hu. Le jeûne pour le jeûne, c'est une bêtise. Ça, c'est la différence d'ailleurs entre nous et les autres. D'accord ? Tout le monde parle de bouffe. Qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on n'a pas bu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, etc. Parce que, de ce que je comprends, hein, pour eux, le jeûne, c'est un but. Chez nous, le jeûne n'est pas un but. Le jeûne, c'est un moyen. C'est un moyen pour me permettre d'arriver, de m'approcher de la Kadosh Baruch Hu. Seulement, comme on sait que quand si j'ai bien mangé, je pense pas à Dieu, je pense à mon ventre, on dit, bon, alors, tu vas moins penser à ton ventre, comme ça, tu ne penseras plus à Dieu. Ça, c'est le but du jeûne.
Finalement, le jeûne, il m'a paru plus facile par rapport à ça. Non, c'est vrai.
Ça fait sûr.
Par rapport à ce qu'on a dit hier.
C'est pas... Le but d'un jeûne n'est jamais stam de jeûner pour jeûner. Quoi, du style, la Kadosh Baruch Hu dit, bon, ben, vous avez fait d'Averot, je vais vous casser les pieds pendant un jour, vous n'allez pas manger. C'est ça le but. Prends, mange pas, Kippour. Prends, mange pas, Kippour, Mickaël.
Ah, il y a une dune de Hino. Hein?
Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
Souffrir.
Pourquoi souffrir? Souffrir pour souffrir? C'est pas chez nous, non. C'est souffrir parce que grâce au fait que tu vas te mortifier ton corps, hein, que tu vas pas manger.
Attends, c'est marqué.
Mais non, mais pourquoi tu le fais? Maïmonide, il pose la question.
On va laisser moins d'espace au corps.
Exactement. On va laisser moins d'espace au corps. Le corps, il est tout le temps occupé à penser à lui. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que j'ai bu? Quand tu lui dis, bon, écoute, laisse tomber pendant 26 heures, tu manges rien. Dehors. D'accord? Bah, du coup.
Ne pense pas au prochain repas, c'est pas d'accord.
Voilà. Ne pense pas au prochain repas, il n'y a rien à faire. Donc, du coup, tu penses à la tefila. Du coup, tu peux plonger dans la tefila. Le jeûne n'a jamais été un but en soi. On doit jeûner, c'est une halakha qu'on doit jeûner.
Mais si tu parles de kippour, c'est en fait c'est tous les moyens de te faire sortir du matériel.
Exactement. Donc ça veut dire que le jeûne.
Travail, le jeûne.
Et... Donc le jeûne n'est pas un but en soi.
Oui, d'accord.
On est d'accord. C'est la même chose. La tristesse n'est pas un but en soi. D'ailleurs, si personne est Bessimra à kippour, c'est très bien. Personne n'a internet Bessimra à kippour.
Non, d'accord.
Il n'y a pas de problème. Le but n'est pas d'être triste. Le but est de mettre de côté les éléments matériels qui peuvent te déranger pour pouvoir décoller dans la joie.
Tu peux être Bessimra à kippour.
C'est beaucoup mieux de servir Dieu à table qu'en jeûnant.
Le Shabbat, par exemple.
On pense pas à Dieu quand on mange.
Bien sûr que si.
Pourquoi le Shabbat.
On pense pas à Dieu un Shabbat.
Moi, personnellement, j'ai pas besoin qu'on me prive de bouffer pour que.
Shabbat,
on pense pas à Kadosh Baruch Hu un Shabbat comme on pense à Kadosh Baruch Hu à kippour.
C'est facile.
C'est évident. Kippour, on met tout de côté. T'as rien à faire, t'as que la prière toutes les journées.
Y'a rien. Dans le sanctuaire.
Alors c'est la même chose, quand t'arrives, tu Shabbat.
Mais Shabbat, s'il n'y avait pas ça, on ne prendrait pas le sens de Shabbat s'il n'y avait pas exactement la table, tout ce qu'il faut.
C'est vrai, non.
Parce que toute la semaine.
Je dis pas que le Shabbat c'est pas bien. Je vais te dire plus que ça. Le but de Kippour, c'est pas de jeûner. C'est grâce au jeûne que je vais faire, pendant toute l'année, je vais réussir à être Bessimra en mangeant. Ne pas manger, c'est pas un but chez nous. Au contraire, Maïmonide dit. Que le corps soit en bonne santé, ça fait partie des façons de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pas un but de jeûner chez nous. C'est pas que je mange pour jeûner. Non, on jeûne pour manger.
Le jeûne n'aura plus de sens, ça fait du machia.
Bien sûr. Pourquoi tu veux jeûner?
Mais non.
D'ailleurs, ça va se transformer.
Kippour, on jeûnera toujours. C'est marqué, c'est un méfourage dans la Torah, ça va pas changer.
Kippour, il sera plus là. Il n'y a plus Kippour.
Quoi, après, ben, machin.
Il n'y a plus, il n'y a pas.
C'est terminé. Il reste que Pessah.
Qui, il reste Pourim, Pourim, Prenouré, Pourim.
C'est ça, Pourim.
C'est un qui?
Vous demandez pardon sur quoi? Revue de la Vérotte.
On est déguisé en Spiderman, il sera pas fou.
Alors, dans les mots, on va terminer avec ça. Vézé ou ta ma pachoute, ça c'est la raison. Ça c'est la raison. La raison simple, pourquoi on a instauré l'Omar Mizmorzé Achar Tikkun Chatzot. Voilà pourquoi le Harizal a instauré que le psaume 51 qui parle de la joie, il a instauré qu'on le lise après le Tikkun Chatzot. Pourquoi? Pour te dire, sache que dans le Tikkun Chatzot dans lequel on a pleuré, le but du Tikkun Chatzot c'est quoi? C'est pas la tristesse. Le but du Tikkun Chatzot c'est d'arriver par la suite à la joie. Comme on a expliqué par rapport au Beit HaMikdash, d'accord? Que le Beit HaMikdash, comment on le reconstruit? On le reconstruit encore une fois, comme on a expliqué par la joie. D'accord? Kedé Kodama Limoud, Kedé Lilmod, Besimcha, Mitit, Bashem, Abacharitza. Parce que vous savez, qu'est-ce qu'ils font ceux qui font Tikkun Chatzot? Ils vont se lever à minuit. Ils vont faire la première partie du Tikkun dans laquelle ils pleurent, et ils pleurent. Après, dès qu'arrive le milieu de la nuit, ils vont commencer à lire la deuxième partie du Tikkun dans laquelle ils vont être joyeux.
Ils travaillent pas, tant pis.
D'accord? Après, c'est sûr qu'ils travaillent. C'est des gens qui dorment 3 heures par nuit, qu'est-ce que vous croyez? Et ils sont en meilleure santé que nous. Et ils vont continuer après à faire la deuxième partie du Tikkun dans laquelle ils vont parler de la joie. Ils vont parler de la joie. Et après, ils vont étudier. Ils vont pas aller redormir après jusqu'à 7 heures du matin. Ils vont étudier toute la nuit. Et ils vont étudier toute la nuit avec quel sentiment? La simcha! Le but, c'est la simcha. Il y a un moment dans la nuit dans lequel, pendant une demi-heure, une heure, ils ont pleuré. Mais tout le reste de la journée, ils vont être contents, ils vont être heureux. Parce que le but d'un juif, c'est tout le temps d'être besimcha. Le but de la simcha, c'est qu'yitron ha'or abba min ha'chosher davka. Que moi, je suis katou bezoar, veraïti, shi'e shitron ha'chorma min ha'sikhlout, qu'yitron ha'or ayensha. D'accord? Donc, on s'arrête là. En fait, dit ici l'Admor Hazaken, il dit que quand la lumière vient après l'obscurité, elle est plus appréciée que s'il y avait tout le temps de la lumière. De la même manière, dit le Zohar, quand la joie vient après la tristesse, ne peut apprécier la joie sans même personne qui est passée par la tristesse. Donc ok, ça n'est pas de problème. Celui qui est passé par la tristesse pendant la nuit, là quand après il va passer à la deuxième partie du Tikkun, il va être joyeux, il sera joyeux. Mais en tout cas, ce qui est clair du cours d'aujourd'hui, c'est que le but dans la Torah, le but d'un juif n'a jamais été d'être triste. Le but d'un juif, c'est toujours d'être les simcha, d'être joyeux comme on a expliqué. D'accord? Maintenant, ce qu'on va expliquer aux attachés la semaine prochaine, on va expliquer les bienfaits de la joie. Comment la joie, ça peut amener des choses extraordinaires à la personne. Et on va expliquer aussi, Bezrat Hashem, comment faire quand on sent que on est pris par la déprime, comment faire pour s'en sortir. C'est la question que plusieurs ont posée. Maintenant qu'on a expliqué l'importance de la joie, il faut expliquer comment faire pour s'en sortir, que ça marche pas. Voilà. Donc ça, en vérité, maintenant, à partir de maintenant, chaque chapitre, c'est des petits thèmes. Donc c'est très intéressant. Voilà, aujourd'hui, par exemple, on a parlé de la joie. La joie. L'importance de la joie. Non, combat la tristesse pour arriver à la joie.
C'est ce qu'il est en train de te dire.
Non, attends.
Oui.
Ça se comprend pas, ça a été des problèmes de.
Il va t'expliquer
comment. Tu vas voir, tu peux être
au prochain chapitre, ils vont nous expliquer.
Bonne question, ça en verra la semaine prochaine. Là, pour l'instant, on n'est pas en train, si tu veux, là, on n'est pas en train dans la pratique. On est rentré pour l'instant dans l'idée, expliquer pourquoi la joie c'est important. Après, on va expliquer, on va redescendre sur terre, parce que chacun a des problèmes. On va expliquer qu'il y a plusieurs raisons pour une personne peut être triste. Ça peut être soit à cause des problèmes qu'il a dans la vie. D'accord? Ça peut être soit stable parce qu'il est pas bien. Ça peut être aussi parce qu'il sent qu'il avance pas dans la Torah. Ça peut être pour plusieurs raisons. Et pour chacun des types, on va expliquer à chaque fois des techniques comment faire pour s'en sortir. Ça, il faut, on va faire à la Tania, quoi. C'est-à-dire qu'après, il faut décortiquer, etc. Sans ta chaîne. Voilà. Trois prochaines. On entend de bonnes nouvelles, si tu veux. Allez. On va laisser les livres.